Jusqu'à 13h, le Val, c'est tout sur Sud Radio.
Merci d'être avec nous, effectivement, jusqu'à 13h, le Val, c'est tout sur Sud Radio et les mystères des Dogons. Alors, je ne vous cache pas que cette émission, à chaque fois, je dis que c'est toujours fascinant et très instructif parce que je ne connaissais pas du tout les Dogons, je n'en avais jamais entendu parler quand on nous a suggéré ça, et notamment Stéphane qui est à Montélimar et qui nous dit « De qui les Dogons tiennent-ils leur savoir ?» Eh bien, je me suis dit « Les Dogons, qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, nous allons en parler de ce peuple qui vit donc du côté d'un plateau complètement rocailleux et desséché, le plateau de Bandiagara dans l'actuel Mali, avec mon invité qui s'appelle Jean-Marc Bonnet-Bido. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes astrophysicien et consultant scientifique pour le magazine Ciel et Espace. Je suis ravi d'être là parce que c'est vrai que ce peuple est assez mystérieux et les connaissances cosmiques des Dogons, c'est de cela dont nous allons parler, nous interpellent depuis longtemps et on se demande encore aujourd'hui comment est-ce qu'ils arrivent à avoir effectivement ce savoir. D'autant que, je rappelle, on est en plein cœur du Mali, il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de, microscope, tout ce qui est applications mathématiques supérieures qui sont nécessaires, ces applications que l'on utilise encore aujourd'hui pour concrétiser le savoir que nous avons, eh bien eux n'en ont aucune connaissance et pourtant il y a un mystère, le mystère des Dogons. Et alors ce qui est fascinant avec vous Jean-Marc, c'est que vous les avez rencontrés.
Oui, effectivement, et je les ai rencontrés surtout avec une personne qui les connaissait extrêmement bien, puisque vous le savez peut-être, mais ce sont deux Français qui ont fait des études de cette population du Mali. Et ces deux Français s'appellent Marcel Griot et Germaine Dieterlin.
Oui.
Et ils ont commencé leurs études dans les années 1939, mais Germaine Dieterlin a vécu jusqu'à très récemment, puisqu'elle est morte en 1999, et c'est avec elle que j'ai été au Mali, notamment dans le village de Sanga.
Qui sont les Dogons ?
Alors, les Dogons sont une population particulière. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais ils sont installés là où ils sont, au Mali, donc effectivement au nord-ouest, au nord-est de Bamako, vers la route de Tombouctou, un petit peu à l'écart des boucles du Niger, donc un petit peu à l'écart des routes de communication, et ils sont restés une population très soudée et très homogène. Et on sait quand même que ils sont là où ils sont depuis au moins 7 ou 8 siècles. Et on le sait de façon assez amusante parce que, en fait, et ça nous rapprochera après de l'astronomie, ils ont une cérémonie qu'ils réalisent tous les 60 ans qui s'appelle le Sigi.
Exact.
Et à chaque fois que cette cérémonie est faite, ils construisent d'immenses masques en bois et ils les enterrent symboliquement dans une falaise.
Alors écoutez bien cette histoire, écoutez bien ce mystère des Dogons. Quand je disais Jean-Marc il y a un instant qu'ils n'ont rien, hein, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas les mathématiques, il n'y a pas de microscope, de télescope et de choses comme ça pour observer les astres, on est d'accord hein.
On est d'accord, mais ils ont toute l'intelligence des hommes et elle est immense l'intelligence humaine.
Et alors l'histoire des Dogons commence, j'ai envie de dire, parce qu'il faut mettre un point de départ, par une étoile, cette fameuse étoile qu'on appelle Sirius.
Et voilà, et c'est pour ça que je vous citais cette cérémonie, parce que cette étoile Sirius, en langage dogon, s'appelle Sigi Tolo, c'est-à-dire l'étoile du Sigi.
Et cette étoile, qu'on peut apercevoir notamment dans l'année, c'est au mois de février, je crois, donc, du côté de la Guadeloupe, hein, c'est ça ?
Oh non, vous savez, ces étoiles, tout le monde les observe, hein, c'est très facile, même vous sortez le soir hein, et vous allez voir Sirius. Sirius, on l'observe effectivement plutôt en hiver, mais c'est surtout l'étoile la plus brillante du ciel. Elle est extrêmement brillante, cette étoile.
Alors, on la connaît aujourd'hui, elle est officielle, on est d'accord, mais la particularité des Dogons, elle commence déjà par cette étoile, parce que eux disent que, et c'est le premier cas qui intrigue, disent qu'il y en a une deuxième.
Exactement. Et ils disent qu'il y en a une deuxième, alors que nous, on va dire dans la science moderne, nous le savons depuis relativement un petit bout de temps, mais pas tant que ça. On a observé pour la première fois cette petite étoile à côté de Sirius en 1862, quand on a utilisé les premières grandes lunettes qui ont été faites en Europe et aux États-Unis. Mais ce qu'il faut tout de suite savoir, c'est qu'effectivement, cette petite étoile, il faut vraiment normalement un instrument pour la voir parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Elle est d'abord trop près de cette étoile très brillante. Et puis, même si elle était séparée de cette étoile brillante, on ne la verrait pas parce que certaines étoiles sont trop faibles pour que nos yeux les perçoivent.
Alors ça, c'est la première interrogation. Comment se fait-il que nous ne puissions pas effectivement les voir, même avec des appareils scientifiques, alors que eux sont déjà au courant qu'effectivement, elle existe ?
C'est exactement ce qu'on appelle l'énigme de Sirius chez les Dogons, effectivement. Et c'est ce qui m'a amené, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'en tant qu'astrophysicien, je n'avais pas beaucoup de raisons de m'intéresser aux Dogons, mais c'est ce qui m'a amené à faire cette expédition avec Germaine Dieterlin en 1998, sur les lieux mêmes, puisque je me suis aperçu que tout le monde avait beaucoup parlé de cette énigme sans jamais être allé sur les lieux, disons, en tant que scientifique, en tant qu'astrophysicien, si vous voulez. Et donc, on a fait cette mission pour ça, pour essayer d'éclaircir un peu le débat.
D'ailleurs, effectivement, si on va sur Internet, je regardais encore il y a une petite heure les images, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui relatent justement de votre expédition. Alors, on va essayer de, et ceux qui nous écoutent, essayer de bien suivre, parce que vous allez voir qu'on va monter crescendo, effectivement, dans des choses assez incroyables, dans ces mystères des Dogons. On a donc parlé, effectivement, de cette étoile qu'on va appeler Sirius A, d'accord, qui a donc une petite sœur qu'on va appeler Sirius B. D'accord, qu'on appelle aussi naine blanche, hein, c'est ça ?
Oui, alors parce que cette étoile n'est pas une étoile tout à fait ordinaire. Elle est ce que va devenir notre Soleil dans à peu près 5 milliards d'années. Alors, il faut savoir qu'une étoile, normalement, elle brûle de l'énergie à l'intérieur, puis à un moment donné, elle n'a plus de combustible. Elle va s'éteindre, mais alors avant de s'éteindre, elle va se contracter. Et donc on finit par avoir une étoile qui a la masse d'un soleil, mais sous la dimension d'une planète. Et c'est ça que nous appelons, nous, une naine blanche. Naine parce qu'elle est toute petite, et blanche parce qu'en fait, sa lumière qu'elle va émettre est assez blanche.
Alors il y a donc Sirius A, Sirius B, et le deuxième cas étrange arrive, car figurez-vous que les Dogons, eux, affirment que Sirius serait accompagné non pas d'une étoile, comme on vient de le dire avec Sirius A, mais de deux étoiles. Il y aurait donc Sirius A, Sirius B et Sirius C, et c'est là que ça commence à être étonnant, parce qu'on n'en a pas du tout connaissance de cette troisième étoile.
Exactement. Et je vais encore vous dire quelque chose d'étonnant, c'est parce que avant de rencontrer les Dogons, moi j'avais fait une hypothèse sur une troisième étoile dans le système de Sirius.
Ah ouais.
Sur la base de l'astrophysique, parce qu'il y a encore une autre question qu'on s'est posée sur l'étoile, il semblerait qu'elle ait changé de couleur aux environs du début de l'ère moderne. Or vous savez, les étoiles ne changent pas de couleur comme ça, il faut qu'il se passe quelque chose, un événement qui se serait passé autour de Sirius, et j'étais à la recherche de ça. Et j'ai fait l'hypothèse qu'éventuellement une troisième étoile aurait pu perturber ce système que nous connaissons bien de A et de B dont vous parliez.
Alors, bon, jusqu'à présent, ok, on admet effectivement, les Dogons disent qu'il y a trois étoiles, Sirius A, Sirius B, Sirius C, d'autant qu'ils lui donnent un nom spécifique pour cette troisième étoile.
Oui, elle s'appelle... Alors la première, c'est Sigitolo, l'étoile du Sigi, la grande. La petite B s'appelle Potolo, c'est-à-dire l'étoile du Fonio. Et la troisième, Emeyatolo, l'étoile du Sorgho. En fait, ils donnent des noms de céréales, parce que vous savez, la subsistance dans le pays Dogon est très très compliquée. Hein. Ce sont des gens qui vivent de façon très très rude. Hein. Donc ils ont donné comme ça les éléments les plus précieux. C'est pour eux, c'est les céréales.
Alors on disait que Sirius B mettait 60 ans pour, j'allais dire, tourner autour de Sirius A. Vous me dites si je me trompe, hein, j'essaie de suivre. Hein. Et que Sirius C met visiblement 32 ans pour tourner autour de Sirius A, c'est ça ?
Alors, il y a une chose qui est avérée par la science, c'est la petite étoile Sirius B met exactement 50 ans et quelques mois pour tourner autour de A. Mmh. Alors, effectivement, vous voyez déjà qu'il y a une petite différence parce que les Dogons disaient 60 ans.
Oui.
Donc, il faut voir ça quand même comme une histoire assez, assez étrange dont on n'a pas la solution. Hein. Je vais vous le dévoiler, effectivement, malgré toutes nos études. Mais en revanche, on a effectivement beaucoup progressé. Quant à la troisième, eh bien, moi, j'ai utilisé les plus grands télescopes de la planète pour essayer de la trouver. Et si elle existe, elle est relativement assez loin et on ne l'a toujours pas vue, en fait, si vous voulez.
Et alors là, attention, mesdames et messieurs, c'est là qu'entre en scène, effectivement, l'intrigue. Ces Dogons, écoutez bien, affirment que cette troisième étoile qu'ils appellent donc, qui s'appelle aussi Ama, hein, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Hein, qui est en fait, c'est leur dieu.
Le dieu, oui, c'est ça. Disons que si vous voulez, bon, les dénominations Ama, c'est le dieu qui a créé le monde, si vous voulez.
Oui. Oui, c'est ça, pour eux. Alors donc, ces Dogons disent que cette troisième étoile possède plusieurs planètes en orbite autour d'elle et que c'est de l'une de ces planètes que seraient venus leurs ancêtres, il y a très longtemps, à bord, écoutez bien, d'un vaisseau interstellaire dont la forme et le comportement ressemblent beaucoup à ce qu'on a connu, nous, au travers d'Apollo, et ils l'ont appelé Nomo. Et c'est là que ça commence à être extrêmement intriguant, Jean-Marc.
Oui, alors je serais plus prudent que vous peut-être, parce que, si vous voulez, ayant travaillé avec Germaine Dieterlin, qui était encore une fois une ethnologue, qui faisait des enquêtes, qui questionnait les gens, elle était beaucoup plus prudente sur ces aspects-là. Oui. Ce qu'il est certain, c'est qu'effectivement, l'étoile Sirius est une étoile extrêmement fondamentale de la cosmogonie, de la mythologie des Dogons. Et les Dogons racontent effectivement que les premiers hommes sont arrivés du ciel, se sont posés sur la terre, il faisait noir, il n'y avait pas de lumière, ils ont vu se lever l'étoile Sirius, et ensuite seulement le soleil, c'est ce qu'ils ont appelé le premier matin du monde.
Mais ils décrivent quand même les choses de manière extrêmement précise, c'est-à-dire qu'ils décrivent bien l'arrivée donc de ce, entre guillemets, moi je dis vaisseau parce que j'ai pas d'autre mot, mais de ce vaisseau qui atterrit sur Terre, d'énormes nuages de poussière générés par les réacteurs effectivement de ce vaisseau. Il y a des choses extrêmement précises, et ils vont jusqu'à les décrire sur des accessoires qu'ils utilisent au quotidien.
Alors, oui, encore une fois, je serais peut-être, vous savez, je suis un scientifique, alors j'ai tendance à avoir la prudence extrême. Non, ils décrivent réellement que ces quatre ancêtres, puisqu'il y a quatre familles, hein, qui ont fait les familles Dogon ensuite, sont descendus dans un panier. Hein. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est parce qu'ils utilisent un langage de leur niveau proche. Donc, ils ne parlent pas de vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Il faut effectivement être relativement rationnel par rapport...
C'est pour imager, en fait. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, si vous voulez, je pense que, très, très honnêtement, pour avoir parlé avec les Dogons, et puis pour avoir surtout écouté Germaine Dieterlin, je pense que c'est plutôt allégorique. Vous savez, on construit une histoire. Cette histoire, évidemment, symbolise leur migration, parce qu'ils sont bienvenus de quelque part avant de s'installer au Mali. Donc ensuite, si vous voulez, on reconstitue le fait qu'il faut bien que les hommes arrivent sur Terre à un moment donné. Ils ont effectivement cette histoire qu'ils racontent. Je serais prudent parce que effectivement, il y a eu un ouvrage qui a fait un peu sensation dans les années 60, milieu des années 70, qui s'appelle Le mystère de Sirius par un Américain, qui lui a fait l'hypothèse que ils avaient été visités par des extraterrestres. Donc là, on n'en est pas là, en tout cas sur les enquêtes de terrain, si vous voulez. Ça, c'est vraiment clair. En revanche, moi, je peux vous raconter des choses qui m'ont surprise, puisque quand j'ai été sur place, j'étais un peu comme vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction. Bon, ce sont des cultivateurs, des gens qui n'ont pas d'instruments. Je ne pensais pas qu'ils étaient forcément intéressés par l'astronomie. Mais nous avons trouvé sur place, dans un endroit que m'a indiqué Germaine Dieterlin, un véritable observatoire. Alors, entendons-nous bien, ce ne sont pas des télescopes et des lunettes. C'était un alignement de rochers, un point à partir duquel les Dogons observaient le lever de Sirius avec le soleil. Il y a un jour de l'année où ça se passe, où Sirius se lève en même temps que le soleil. Et là, on a vraiment trouvé sur place des rochers, comme vous savez, un petit peu en Angleterre, on parle souvent de Stonehenge, ou même en Bretagne, ces alignements de pierres ont toujours une signification astronomique. Et là, on a trouvé un véritable observatoire astronomique qui nous laisse penser que les Dogons avaient beaucoup plus de connaissances astronomiques qu'on ne veut bien le penser.
Alors ces fameux Dogons donnent un nom à ces... Alors moi, évidemment, je suis resté dans l'univers de Spielberg, vous voyez, on est parti. Hein. Ils leur donnent un nom, ils appellent ça les Nomos. Et les Nomos, visiblement, ils les décrivent hein, physiquement.
Oui, ce sont des petits êtres, effectivement. Alors, ils ont toute une... C'est très, très intéressant, effectivement, parce que, pour expliquer, vous savez, il y a toujours le bien et le mal. Donc, il y a, en fait, dans leur cosmogonie, il y a toujours des doubles chez les Dogons. Et en fait, il y a eu un dieu, mais en fait, on peut dire qu'il y avait aussi un diable, c'est-à-dire un anti-dieu. Et ils se sont bagarrés pendant un certain temps jusqu'à ce que la paix arrive sur Terre. Et donc, effectivement, il y a des petits êtres, notamment, qui ont maintenant disparu, mais dont les Dogons auraient pris la place par la suite. Alors on pense, hein, si on veut être rationnel, mais encore une fois, je vous ramène peut-être à la rationalité, que ce sont des populations plutôt de type pygmée, qui ont été peut-être des gens qui occupaient le territoire dans lequel sont arrivés les Dogons, et ils ont gardé ça en mémoire, effectivement, sous une forme très symbolique.
Alors oui, alors, mais vous le dites pas, mais moi je vais le dire, parce que dans les écrits, ils disent qu'effectivement ils auraient les yeux rouges, hein, et on décrit même précisément l'endroit où ils auraient atterri, c'est-à-dire au nord-est du pays.
C'est précis. Oui, il y a cet endroit dont je vous parlais, l'observatoire, est un endroit où on dit que s'est déposé l'arche, en fait, ou le panier qui amenait les hommes. Alors évidemment, c'est une image, hein, une parabole, mais évidemment, elle a donné lieu, forcément, pour certains, à l'idée d'effectivement de ce contact ou de avec des populations extraterrestres. Ça, on peut pas empêcher que l'imagination humaine s'intéresse et brode sur des faits historiques.
On sent bien que pour un scientifique, c'est difficile à dire. Hein.
Ben, si vous voulez, parce que moi, je crois que je suis... Non, mais je pense qu'il ne faut pas non plus réduire la science. La science a sa fonction. Mais si vous voulez, par exemple, moi, ça m'a passionné de trouver qu'il y avait un vrai observatoire. Parce que si vous voulez, ça m'a montré une certaine filiation, notamment de la science de Gond avec la science de l'Égypte ancienne. Parce que la seule endroit où les gens se sont intéressés à Sirius, et au lever de Sirius avec le soleil, c'était en Égypte ancienne. Et ça, on en a des textes. Donc c'est très intéressant parce qu'on reconstitue l'histoire humaine. Alors après, l'histoire extraterrestre, ben un jour peut-être on découvrira des vrais extraterrestres. Vous savez qu'on a découvert beaucoup, beaucoup de planètes extérieures dans notre système solaire. On cherche à l'heure actuelle s'il y a des traces de vie. Peut-être dans 50 ans ou 100 ans, on parlera de ces choses-là très différemment.
On a fait une émission d'ailleurs il y a quelques jours de cela avec quelques intervenants des scientifiques et des journalistes qui ont mené l'enquête là-dessus, mais c'est un autre sujet. On va revenir dans un instant avec Jean-Marc Bonnet-Bideau qui est avec nous. Il est astrophysicien et consultant scientifique notamment pour le magazine Ciel et Espace. On parle du mystère des Dogons qu'il a rencontré, qu'il est allé voir dans l'actuel Mali, et on a encore quelques questions. J'ai quelques questions encore à lui poser. Il est midi et demi, on revient dans un instant, à tout de suite.
Midi 13h Sud Radio, Leval, c'est tout.
Et on parle des Dogons, le mystère des Dogons, avec Jean-Marc Bonnet-Bideau. Allez sur Internet, bien sûr, vous verrez le reportage, les images, et vous vivrez au cœur de cette communauté, ce peuple qui vit du côté du Mali, dans un endroit qu'on appelle le plateau de Bandiagara, précisément. Je me trompe pas, hein, c'est ça, Jean-Marc, hein.
Oui, c'est la falaise de Bandiagara, parce qu'en fait, il y a une énorme falaise, et les villages, il y a plusieurs villages Dogons, 7 ou 8 en file indienne, le long de cette falaise, et ça forme cette communauté Dogons.
Est-ce que vous les avez revus depuis ?
Alors oui, je suis retourné une autre fois parce que avec des amis africains, parce que vous savez, en fait, en quelque sorte, les Dogons nous montrent que très très souvent, nous ignorons la science qui s'est faite dans les autres parties du monde que l'Europe. Et si vous voulez, j'ai été intéressé de poursuivre ces études-là et de vérifier les connaissances, justement, d'essayer d'avoir les connaissances mathématiques, parce que ils font des comptages sur des nœuds, les Dogons ont des recettes mathématiques. Donc, si vous voulez, la science est aussi en Afrique, alors qu'on a tendance à penser qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de travaux intellectuels. Alors, il y en a eu, en fait, et on essaye de les redécouvrir à l'heure actuelle.
Alors on parle effectivement de ces étoiles, hein, Sirius, qui visiblement abriterait peut-être, vous l'avez compris pour ceux qui étaient là en première partie, une planète d'où viendraient ces fameux Dogons. Alors visiblement en astronomie, il y a des choses qu'ils ne savent pas, les Dogons. J'ai lu certaines choses comme le fait que au-delà de Saturne, c'est-à-dire les autres planètes comme Uranus, Neptune ou Pluton, ils n'ont aucune connaissance de ces planètes.
Non, c'est vrai, parce qu'effectivement, elles sont difficilement observables, voire pas observables comme Pluton à l'œil nu. Donc il faut quand même imaginer que, si vous voulez, s'ils ont fait de l'astronomie, c'était une astronomie comme on le faisait avant les télescopes et les lunettes, une astronomie à l'œil nu. Et donc on constate un certain nombre de choses. On constate par exemple que certains points lumineux bougent dans le ciel, ce sont les planètes. Et on constate aussi que les d'autres points sont fixes, ce sont les étoiles. Au-delà de ça, il est très difficile, effectivement, d'avoir une connaissance comme nous avons aujourd'hui, puisque ça, elle nous est venue de l'analyse de la lumière à travers de nos télescopes, si vous voulez.
Qu'est-ce qui vous a le plus perturbé, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué lorsque vous êtes rentré en contact la première fois avec les Dogons ?
Mais écoutez, ce qui m'a beaucoup subjugué et un petit peu impressionné, c'est une véritable culture, parce que là on parle de l'astronomie, on parle de Sirius, mais ils ont aussi une architecture, ils ont donc ces histoires qu'ils se racontent, ils ont un niveau de parole, parce que par exemple, si vous voulez, les Dogons, ça n'est pas le cas partout en Afrique, il y a des langues africaines, des langues écrites africaines, mais la langue Dogon est une langue orale uniquement. Et donc en fait, pour transmettre le savoir, ils ont 4 niveaux de parole, dont le dernier niveau étant une langue secrète, réservée uniquement à des initiés. Et alors on s'aperçoit comme cela qu'en fait, nous avons des livres, nous écrivons, mais si les livres brûlent, ben il n'y a plus rien. Là, par ce fait qu'ils ont une langue secrète, ils transmettent une information de façon beaucoup plus précise et précieuse que nous le faisons, en sacralisant un petit peu ça. Et on pense que l'histoire de l'astronomie, notamment, c'était pour garder l'idée de la longueur de l'année, puisqu'il fallait planter, il faut planter à la bonne date, et l'astronomie, avant tout, c'est maîtriser les grands cycles du climat, et ils le faisaient en passant des informations des uns aux autres, de génération en génération, à travers la connaissance des étoiles.
Quel regard ils ont sur le reste du monde, et lorsqu'ils sont en contact avec un Européen comme vous ?
Eh bien, écoutez, moi, j'y ai déjà été il y a un certain nombre d'années et le pays se transforme énormément. Moi, quand j'étais donc en 98, il n'y avait pas d'électricité hein, dans les villages d'Ogon. Donc, maintenant, l'électricité est arrivée, le tourisme un petit peu s'est accru. Je pense que la culture d'Ogon est en quelque sorte un petit peu en péril. Par exemple, cette cérémonie qu'ils font tous les 60 ans, la dernière a eu lieu dans les années 70, on ne sait pas s'il y en aura une autre, parce que qui va garder le savoir de comment s'organiser ces cérémonies qui sont très très traditionnelles, très empreintes de symbolisme peut-être qu'on vit actuellement peut-être les derniers moments de la culture d'Ogon. C'est possible parce que le Mali est un pays qui se transforme bien évidemment et donc voilà, c'est toujours le dilemme qu'on a, comment garder les traditions en adoptant la modernité.
Et comment font-ils alors, notamment pour cette date anniversaire de tous les 60 ans, comment font-ils, quel calendrier ils adoptent pour se souvenir précisément du jour de cet anniversaire à célébrer?
Alors c'est assez difficile à le savoir vraiment, j'ai posé la question à Germaine Dieterlin, l'ethnologue, et elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas, en fait il semblerait que quand même, alors on parle d'une lueur rouge qui viendrait dans une caverne, vous savez il y a des choses comme ça qui sont dites, mais il n'y a rien de très très précis, je pense que d'une certaine façon, ça peut être relativement aléatoire. Vous savez, 60 ans, c'est une génération et une longue génération pour les Dogons qui parfois meurent plus tôt. Mais je pense que c'est juste la durée d'une génération et c'est à quelques années près. Je pense qu'il n'y a pas une réelle régularité parce que, par exemple, si vous voulez, on ne peut pas se repérer un phénomène astronomique pour ces 60 ans puisque cette étoile n'étant pas visible, ils ne peuvent pas voir si elle repasse sous les 50 ou 60 ans. Donc, en fait, il y a un côté un petit peu aléatoire, mais de fait, on a pu reconstituer qu'elles se sont passées très régulièrement sur au moins 5 ou 6 siècles.
Pour conclure, Jean-Marc, quel est votre positionnement? Est-ce que vous avez des certitudes aujourd'hui quand vous parlez des Dogons? Et si oui, lesquels?
Ah ben oui, j'ai une certitude, ce sont des gens comme beaucoup de gens sur la planète qui ont une intelligence extrême, qui se sont affrontés au ciel en se disant mais qu'est-ce qu'on peut en comprendre et qui en ont compris quelque chose. On n'a malheureusement pas assez de traces, mais je pense que si on avait eu le temps de les interroger suffisamment, on aurait peut-être eu effectivement cette connaissance qui s'est transmise de peuple en peuple sur le rythme des étoiles, sur la connaissance des planètes. Et donc ma grande découverte, ça a été qu'effectivement, on sous-estime beaucoup l'Afrique pour ça, pour toutes les connaissances scientifiques qui ont pu s'y développer.
C'est passionnant. Les mystères des Dogons, vous allez sur Internet regarder évidemment les écrits et bien sûr les reportages de Jean-Marc Bonnet-Bidot. On mettra tout cela sur le site Internet de Sud Radio. Il est astrophysicien et notamment vous participez au rédactionnel du magazine Ciel et Espace. Merci beaucoup Jean-Marc, c'était passionnant en tout cas.
Je vous en prie, merci à vous.
Juste une dernière question, vous avez l'intention d'y retourner encore dans les prochains mois, années?
Oui, parce que je souhaiterais que soit mis en valeur cet observatoire que finalement j'étais le seul à étudier et peut-être effectivement pour montrer aux gens de passage aussi avec un minimum d'explication. Donc j'ai un projet effectivement de mettre en valeur ce lieu.
Eh bien écoutez, faites-en nous part, on s'en fera l'écho avec plaisir parce que c'est toujours extrêmement intéressant. Merci Jean-Marc, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.